Chapitre 5. Sur le recours à la morphine, le jeune médecin resta inébranlable. On ne pouvait pas continuer comme ça. On s'habitue à ce genre de drogue et ça provoque des dégâts. On ne peut pas tout le temps envoyer, non, et il va falloir arrêter. Dès le lendemain de l'opération, il avait diminué les doses. Édouard, qui remontait lentement à la surface, à mesure qu'il redevenait conscient, recommençait à souffrir le martyre et Albert s'inquiéta de ce transport pour Paris qui n'arrivait toujours pas. Le jeune médecin, interrogé, leva les bras en signe d'impuissance puis il baissa la voix. « 36 heures ici, il devrait déjà être transféré, je comprends pas. Remarquez, il y a sans cesse des problèmes d'encombrement, mais ça n'est vraiment pas bon qu'il reste là, vous savez. » Il avait un visage extrêmement préoccupé. Dès ce moment, Albert, affolé, se fixa un seul et unique objectif, obtenir dans les meilleurs délais le transfert de son camarade. Il ne cessa de se démener, alla interroger les sœurs qui, bien que l'hôpital soit maintenant plus calme, continuaient à courir dans les couloirs comme des souris de grenier. Ces démarches n'aboutirent à rien. C'était un hôpital militaire, autant dire un lieu où il est à peu près impossible d'apprendre quoi que ce soit, à commencer par l'identité des personnes qui commandent vraiment. Il revenait toutes les heures au chevet d'Édouard et attendait que le jeune homme se rendorme. Le reste du temps, il le passait dans les bureaux, dans les allées qui desservaient les principaux bâtiments, il se rendit même à la mairie. Au retour d'une de ces démarches, deux soldats faisaient le pied de grue dans le couloir. Leur uniforme propre, leur visage rasé, le halo de confiance en soi qui les entourait, tout dénotait des soldats en poste au QG. Le premier lui remit un document cacheté, tandis que le second, peut-être pour prendre une contenance, posait la main sur son pistolet. Albert pensa que ses réflexes de méfiance n'étaient pas si infondés que cela. « On est entré ?» dit le premier soldat avec l'air de s'excuser. Il désigna la chambre du pouce, mais après, on a préféré attendre dehors, l'odeur. Albert pénétra dans la pièce et lâcha aussitôt la lettre qu'il commençait à décacheter pour se précipiter vers Édouard. Pour la première fois depuis son arrivée, le jeune homme avait les yeux presque ouverts, deux oreillers lui avaient été tassés dans le dos, une sœur de passage sans doute. Ses mains attachées disparaissaient sous les draps, il dodelinait de la tête et poussait des grognements rauques qui finissaient en gargouillis. Décrit comme ça, on n'aurait pas dit une amélioration franche et positive, mais Albert n'avait eu jusqu'à présent devant lui qu'un corps hurlant et saisi de spasmes violents ou somnolent dans un état assez proche du coma, ce qu'il voyait là était beaucoup mieux. Difficile de savoir quel courant secret était passé entre les deux hommes pendant ces journées où Albert avait dormi sur une chaise, mais dès qu'Albert posa la main sur le bord de son lit, Édouard, tirant brusquement sur ses liens, parvint à lui attraper le poignet et le serra avec une force de damné. Tout ce qu'il y avait dans ce geste, personne ne serait à même de le dire. Il condensait toutes les peurs et tous les soulagements, toutes les demandes et toutes les questions d'un jeune homme de 23 ans, blessé à la guerre, incertain de son état et souffrant tellement qu'il lui était impossible de situer le siège de la douleur. « Eh ben, te voilà réveillé, mon grand !» dit Albert en tentant de mettre dans ses mots le plus d'enthousiasme possible. Une voix derrière lui le fit sursauter. « Va falloir y aller !» Albert se retourna. Le soldat lui tendait la lettre qu'il avait ramassé par terre. Il resta près de 4 heures à attendre, assis sur une chaise. Un temps suffisant pour remuer toutes les raisons pour lesquelles un obscur soldat comme lui pouvait être convoqué chez le général Morieux. De la décoration pour fait d'armes à l'état d'Édouard, passons cet inventaire, chacun imagine. Le résultat de ces heures de cogitation s'effondra en une seconde, lorsqu'il vit, au bout du couloir, apparaître la longue silhouette du lieutenant Pradel. L'officier le fixa dans les yeux et avança dans sa direction en roulant des épaules. Albert sentit une boule descendre de sa gorge à son estomac. Une nausée s'empara de lui, qui le retint à grand-peine. À la vitesse près, c'était le même mouvement qui l'avait précipité dans son trou d'obus. Le lieutenant cessa de le regarder lorsqu'il fut à sa hauteur et qu'il se tourna, tout d'un bloc, pour frapper à la porte du bureau de l'ordonnance du général, derrière laquelle il disparut aussitôt. Albert, pour digérer ça, il lui aurait fallu du temps. Il n'en eut pas. La porte s'ouvrit de nouveau, son nom fut aboyé, il s'avança en chancelant dans le sein des saints, qui sentait le cognac et le cigare, peut-être qu'on fêtait la victoire prochaine. Le général Morieux semblait extrêmement âgé et ressemblait à n'importe lequel de ces vieillards qui avaient envoyé à la mort les générations entières de leurs fils et de leurs petits-fils. Fusionner les portraits de Joffre et de Pétain avec ceux de Nivelles, de Gallieni et de Ludendorff, vous avez Morieux. Des bacchantes de phoques sous des yeux chassieux, noyés dans un teint rougeâtre, des rides profondes et un sens inné de son importance. Albert était tétanisé. Difficile de savoir s'il était concentré, le général, ou en proie à la somnolence, un côté Kutuzov. Assis derrière son bureau, il était plongé dans des papiers. Devant, face à Albert, dos au général, le lieutenant Pradel, dont pas un trait ne bouge, le regarde lentement de la tête aux pieds, de manière insistante. Les jambes écartées, les mains derrière lui, comme pour l'inspection, il semble se balancer légèrement. Albert comprend le message et rectifie sa position. Il se tient raide, se cambre, il en a mal aux reins. Le silence est lourd. Le phoque lève enfin la tête. Albert se sent tenu de se cambrer davantage. S'il continue, il va se retourner comme les acrobates de cirque. Normalement, le général devrait le soulager de cette position inconfortable, mais non. Il fixe Albert, se racle la gorge, baisse les yeux vers un document. Soldat Maillard, articule-t-il. Albert devrait répondre « À vos ordres, mon général » ou quelque chose d'approchant, mais aussi lentement qu'aille le général, il ira toujours trop vite pour Albert. Le général le regarde. « J'ai là un rapport, » reprend-il. « Lors de l'attaque de votre unité, le 2 novembre, vous avez délibérément tenté de vous soustraire à votre devoir. » Ça, Albert ne l'a pas prévu. Il en a imaginé des choses, mais ça, non. Le général lit. « Vous vous êtes réfugié dans un trou d'obus afin de vous dérober à vos obligations. 38 de vos courageux camarades ont laissé leur vie dans cette attaque pour la patrie. Vous êtes un misérable, soldat Maillard, et je vais même vous dire le fond de ma pensée, vous êtes un salaud. » Albert a le cœur tellement lourd qu'il en pleurerait. Depuis des semaines et des semaines qu'il espère en finir avec cette guerre, ça va donc se terminer ainsi. Le général Morieux le fixe toujours. Il trouve ça lamentable, cette lâcheté, vraiment. Navré devant l'incarnation de l'indignité que représente ce soldat minable, il conclut « Mais la désertion n'est pas de mon ressort, moi je fais la guerre, vous comprenez? Vous relevez du tribunal militaire, du conseil de guerre, soldat Maillard. » Albert a relâché la position. Le long de son pantalon, ses mains se mettent à trembler. C'est la mort. Ces histoires de désertion ou de types qui se blessent eux-mêmes pour échapper au front sont présentes dans tous les esprits, rien de nouveau. On a beaucoup entendu parler du conseil de guerre, surtout en 17, quand Pétain est revenu mettre un peu d'ordre dans le boxon. On en a passé on ne sait combien par les armes. Sur la question de la désertion, le tribunal n'a jamais transigé. Il n'y a pas eu beaucoup de fusillés, mais tous sont bel et bien morts. Et très vite, la vitesse d'exécution fait partie de l'exécution. À Albert, il reste 3 jours à vivre, au mieux. Il doit expliquer, c'est un malentendu, mais le visage de Pradel qui le fixe ne laisse place à aucun malentendu. C'est la seconde fois qu'il l'envoie à la mort. On peut survivre à un ensevelissement vivant, avec beaucoup de chance, mais au conseil de guerre. La sueur ruisselle entre ses omoplates sur son front, lui brouille la vue. Ses tremblements gagnent en amplitude et il se met à pisser là, debout, très lentement. Le général et le lieutenant regardent la tache s'élargir au niveau de la braguette, descendre vers les pieds, dire quelque chose. Albert cherche, ne trouve rien. Le général a repris l'offensive, c'est une chose qu'il connaît, ça, l'offensive, en tant que général. Le lieutenant Pradel est formel. Il vous a parfaitement vu vous jeter dans le vase, n'est-ce pas, Pradel ?
Parfaitement vu, mon général, tout à fait.
Alors, soldat Maillard. Ce n'est pas faute de chercher les mots si Albert ne peut en articuler un seul. Il bredouille « C'est pas ça !» Le général fronce les sourcils. « Comment c'est pas ça ? Vous avez participé à l'attaque jusqu'au bout ?»«
Non. » Il devrait dire « Non, mon général, mais impossible de penser à tout dans cette situation. »
« Vous n'avez pas participé à l'attaque !» hurle le général en tapant du poing sur la table. « Parce que vous étiez dans un trou d'obus. C'est ça ou c'est pas ça ?»
La suite va être difficile à négocier, d'autant que le général tape à nouveau du poing.
« Oui ou non, soldat Maillard ?»
La lampe, l'encrier, le sous-main, tout se soulève à l'unisson. Le regard de Pradel reste planté sur les pieds d'Albert, où la tache de pisse s'élargit sur le tapis élimé du bureau.
« Oui, mais bien sûr que oui. Le lieutenant Pradel vous a parfaitement vu, n'est-ce pas, Pradel ?»«
Parfaitement vu, oui, mon général. » »«
Mais votre lâcheté n'a pas été récompensée, soldat Maillard. »
Le général lève un index vengeur. « Vous avez même failli en mourir de votre lâcheté. Vous ne perdez rien pour attendre. »
Dans la vie, il y a toujours quelques instants de vérité, rares, c'est sûr.
Dans celle d'Albert Maillard, soldat, la seconde qui vient en fait partie. Cela tient en trois mots qui condensent toute sa foi.
C'est pas juste.
Une grande phrase, une tentative d'explication, le général Morieux l'aurait balayé d'un revers de main agacé. Mais ça, il baisse la tête, semble réfléchir. Pradel regarde maintenant la larme qui perle au bout du nez d'Albert et que celui-ci ne peut pas essuyer, tout figé qu'il est dans sa position. La goutte pend lamentablement, se balance, s'allonge, ne se décide pas à tomber. Albert renifle bruyamment, la goutte frémit, mais ne cède pas. Ça fait juste sortir le général de sa torpeur.
« Pourtant, vos états de service ne sont pas mauvais. Comprends pas !»
conclut-il en levant les épaules d'un air impuissant. Quelque chose vient de se passer, mais quoi ?«
Quand de Mailly, l'île générale, la Marne, mouais. »
Il est penché sur ses papiers. Albert ne voit que ses cheveux blancs, clairsemés, qui laissent deviner le rose de son crâne.
« Blessé dans la Somme, ouais. Ah, laine aussi. Brancardier, ouais. Ah. »
Il remue la tête comme un perroquet mouillé. La goutte au nez d'Albert se décide enfin à tomber, s'écrase au sol et déclenche une révélation dans son esprit. C'est du flan. Le général est en train de le lui faire à l'estomac. Les neurones d'Albert arpentent le terrain, l'histoire, l'actualité, la situation. Quand le général lève les yeux vers lui, il sait, il a compris. La réponse de l'autorité n'est pas une surprise.
« Je vais prendre en compte vos états de service, Maillard. »
Albert renifle, Pradel encaisse. Il a tenté le coup auprès du général, on ne sait jamais. Si ça passait, il se débarrassait d'Albert, témoin gênant. Mais, mauvaise pioche, en ce moment, on ne fusille pas.
Il est beau joueur, Pradel. Il baisse la tête et ronge son frein. Oh, en 17, mon vieux, vous étiez bon, hein, reprend le général. Mais là,
il lève les épaules d'un air affligé. On sent que, dans son esprit, tout fout le camp. Pour un militaire, une guerre qui se termine, c'est pire que tout. Il a dû chercher, se creuser la tête, le général Morieux, mais il lui a fallu se rendre à l'évidence, malgré ce magnifique cas de désertion, à quelques jours de l'armistice, impossible de justifier un peloton d'exécution. Plus d'actualité, personne n'admettrait, contre-productif même. La vie d'Albert tient à peu de choses. Il ne sera pas fusillé parce que, ce mois-ci, ça n'est pas à la mode. « Merci, mon général, » articule-t-il. Morieux accueille ces mots avec fatalisme, remercie un général, en d'autres temps, c'est presque l'insulter, mais là... L'affaire est réglée. Morieux balaye l'air d'une main lasse, déprimée. Quelle défaite, vous pouvez disposer. Qu'est-ce qui lui prend alors à Albert, allez savoir. Il vient de passer à deux doigts du peloton, on dirait que ça lui suffit pas. « J'ai une requête à formuler, mon général, » dit-il. « Ah bon, quoi ?» Curieusement, ça lui plaît, au général, le coup de la requête. On le sollicite, c'est qu'il sert encore à quelque chose. Il lève un sourcil interrogatif et encourageant, il attend. À côté d'Albert, on dirait que Pradel se tend et se durcit, comme s'il avait changé d'alliage. « Je voudrais solliciter une enquête, mon général, » reprend Albert. « Ah, par exemple, une enquête ? Eh bien, sur quoi, bordel ?» Parce que, autant il aime les requêtes, le général, autant il déteste les enquêtes. Ah, c'est un militaire. « Concernant deux soldats, mon général. »«
Ben, qu'est-ce qu'ils ont, ces soldats ?»«
Ils sont morts, mon général, et il serait bon de savoir comment. » Morieux fronce les sourcils. Il n'aime pas les morts suspectes. À la guerre, on veut des morts franches, héroïques et définitives. C'est pour cette raison que les blessés, on les supporte, mais qu'au fond, on ne les aime pas.
« Attendez, chevrotte Morieux. D'abord, c'est qui ces gars-là »
« Les soldats Gaston Grisonnier et Louis Thérieux, mon général. On voudrait savoir comment ils sont morts. » Le « on » est sacrément culotté. Ça lui est venu naturellement. Finalement, il a des ressources. Morieux interroge Pradel du regard. « Ce sont les deux disparus de la côte 113, mon général, » répond le lieutenant. Albert est sidéré. Il les a vus sur le champ de bataille. Morts, certes, mais entiers. Il a même poussé le vieux. Il revoit très bien l'impact des deux balles. C'est pas possible.
« Ah bon Dieu, puisqu'on vous dit qu'ils sont portés disparus !»«
Hein, Pradel ?»« Disparus, mon général, absolument. »«
Et puis, » éructe le vieux, « vous n'allez pas nous faire chier avec les disparus, hein ?»
Ce n'est pas une question, c'est un ordre. Il est furieux.
« Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?»
bougonne-t-il pour lui-même. Mais il a besoin d'un peu de soutien.
« Hein, Pradel ?»
demande-t-il brusquement. Il le prend à témoin. « Absolument, mon général, on ne va pas nous emmerder avec les disparus. »«
Ah !»
fait le général en regardant Albert. Pradel aussi le regarde. Est-ce que ça n'est pas l'ombre d'un sourire qu'on discerne chez cet enfoiré ? Albert renonce. Tout ce qu'il désire maintenant, c'est la fin de la guerre et rentrer vite à Paris, entier si possible. Cette pensée le ramène à Édouard. Le temps de saluer la baderne, il ne claque même pas les talons, c'est tout juste s'il ne met pas un index négligent à sa tempe, comme un ouvrier qui vient d'achever sa besogne et qui rentre chez lui, d'éviter le regard du lieutenant, il court déjà dans les couloirs, saisi d'une intuition comme seuls peuvent en avoir des parents. Il est tout essoufflé quand il ouvre la porte à la volée. Édouard n'a pas changé de position, mais il se réveille dès qu'il entend Albert s'approcher. Du bout des doigts, il désigne la fenêtre à côté du lit. C'est vrai que ça pue de manière vertigineuse dans cette chambre. Albert entrebâille la fenêtre. Édouard le suit des yeux. Le jeune blessé insiste. Plus grand. Il fait signe des doigts. Non, moins. Un peu plus. Albert s'exécute, écarte davantage le ventail. Et quand il comprend, c'est trop tard. À force de chercher sa langue, de s'écouter proférer des borborygmes, Édouard a voulu savoir. Il se voit maintenant dans la vitre. L'éclat d'obus lui a emporté toute la mâchoire inférieure. En dessous du nez, tout est vide. On voit la gorge, la voûte, le palais, et seulement les dents du haut, et en dessous, un magma de chair écarlate, avec au fond quelque chose, ça doit être la glotte, plus de langue, la trachée fait un trou rouge, humide. Édouard Péricourt a 23 ans. Il s'évanouit.